France Musique.
Notre reportage dans quelques instants et tout de suite la revue de presse de Musique Matin.
Nous disons, nous croyons tous que nous appartenons à une seule race humaine, la fraternité. Surtout, il y a tellement de conflits internationaux, n'est-ce pas, de racisme et tas de choses vilains. Et alors nous, mes enfants et moi, nous avons voulu prouver que si on veut, on n'a pas besoin de se tuer ou entretuer. Non, on peut s'aimer si on veut bien.
Une interview de Joséphine Baker par Denise Glaser en 1968, interview très touchante. Régis Debray, en 2013, en était plus convaincu que jamais. Joséphine Baker mérite les honneurs du Panthéon. Elle est à la hauteur d'une héroïne. Je crois que la France s'honorerait à la panthéoniser. Marc Voinchet, sur France Culture, lors d'une de ses matinales en 2014, l'espérait tellement. Cette année, France Musique, le jour de son anniversaire, le 3 juin 1906, avait mis à l'honneur cette grande dame en écho au lancement de la compétition Osez Joséphine pour la faire entrer au Panthéon. Eh bien, c'est oui, nous l'avons appris hier. Emmanuel Macron a décidé de panthéoniser l'artiste franco-américaine arrivée à Paris à l'âge de 19 ans. Joséphine Baker, qui a adopté 12 enfants du monde entier, meneuse de revue dans les années 30, militante de la liberté et l'égalité, résistante auprès du général de Gaulle. Elle a marché aussi aux côtés de Martin Luther King en 1963 en faveur de l'égalité des droits. Joséphine Baker sera la première femme noire à reposer dans ce temple républicain. C'est tout un symbole. La cérémonie se tiendra le 30 novembre, date de mariage avec l'aviateur et homme d'affaires Jean Lion. Après Simone Veil, en 2018, Macron a donc choisi une autre figure engagée. Tous les journaux en parlent évidemment, mais nous vous invitons à réécouter les émissions du 3 juin qui avaient consacré une grande partie de son antenne sur France Musique à Joséphine Baker. Dossier sur notre site, ainsi qu'une très belle vidéo à voir sur Joséphine Baker, à retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux de France Musique. Nous apprenons également ce matin la disparition via l'opéra de Marseille du ténor marseillais Charles Burle, né en 1936 dans le quartier du Panier, l'un des magnifiques ténors légers français, comme le dit le site forumopéra.com, des débuts à Toulon en 1958 dans le Barbier de Séville, aussi aux côtés de Tony Poncet, puis à l'opéra comique en 1969, le postillon de Longjumeau par exemple, un répertoire de chansons françaises aussi qu'il connaissait si bien. Dès 1996, Charles Burle s'oriente vers des rôles de composition et se consacre aussi dès les années 2000 à l'enseignement. Benoît Dutertre l'avait interviewé dans une émission qu'il lui avait consacrée en 2012, émission à la réécoute « Étonnez-moi Benoît » au 27 octobre 2012. Une autre disparition dont on a eu connaissance hier soir, Michael Morgan, un chef d'orchestre de longue date de 30 ans de l'Auckland Symphony, décédé à l'âge de 63 ans vendredi dernier. Il était revenu à la direction le mois dernier pour le San Francisco Symphony and Bear Valley Music Festival après une greffe de rein. Et dans une déclaration publiée sur Facebook, l'Auckland Symphony s'est souvenu de Michael Morgan pour une carrière décorée qui avait traversé le pays, ainsi que pour l'héritage et son engagement communautaire qu'il a encouragé localement après être devenu directeur musical et chef de l'orchestre en 1991. C'est un moment terriblement triste pour tout le monde, a déclaré Miiko Atano, directrice exécutive de l'Orchestre Symphonique d'Auckland. Et puis nous restons aux États-Unis avec cet article de Diapason. Les orchestres américains s'engagent vraiment pour la diversité au cours de la saison 2021-2022. 23% des œuvres programmées par les orchestres américains ont été composées par des femmes ou des musiciens de couleur. Un chiffre qui dénote une évolution sensible et qui n'est pas sans susciter quelques débats. Esa-Pekka Salonen à l'Orchestre Symphonique de San Francisco, Ricardo Muti à l'Orchestre de Chicago ou encore Jaap van Zweden au Philharmonique de New York. Et au-delà de ces concerts symboliques, eh bien, c'est une véritable lame de fond qui s'abat sur la programmation de ces orchestres américains et qui suscite quelques réactions. Par exemple, l'essayiste Esther MacDonald qui a signé un long texte intitulé « Classic Music Suicide Pact » dans lequel elle analyse et dénonce la façon dont les orchestres et théâtres lyriques se soumettent aux diktats de la pensée décolonialiste. C'est à lire sur diapasonmag.fr. Et puis, nous sommes à quelques jours de la rentrée des conservatoires. Les inscriptions ont lieu cette semaine en France. Les retrouvailles entre professeurs et élèves seront sans doute très enthousiastes après une saison bousculée. Mais les équipes pédagogiques n'ont reçu aucune directive claire de la part du ministère de la Culture. Une situation inconfortable pour les enseignants. Un reportage de Marie Jiquel.
La partition de cette rentrée sera encore complexe à jouer pour les conservatoires. À la fin de l'année dernière, les cours avaient repris normalement, avec les gestes barrières évidemment. Des classes de musique un peu délaissées par les élèves adultes, c'est ce que constate Anne-Cécile Coignard, enseignante de formation musicale au conservatoire de Troyes. Pour cette rentrée, elle tâtonne.
C'est très compliqué parce qu'on n'a pas vraiment d'informations. Celles qu'on a sont glanées essentiellement sur les réseaux sociaux ou par le bouche à oreille. Parce qu'il n'y a encore rien de concret, et donc tant qu'il n'y a rien de concret, bah, c'est vrai qu'au niveau de l'administration, il n'y a pas vraiment de décisions qui sont prises et qui nous sont communiquées. Moi, je prépare mes cours en essayant de me dire, ben voilà, s'il y a du distanciel, sur quoi je peux m'appuyer, quels documents je peux vite donner à la rentrée à mes élèves.
Geste barrière, passe sanitaire, il n'y a pas eu de consigne directe. Maxime Lesquiera est vice-président de l'association Conservatoire de France et également directeur du Conservatoire de Bordeaux.
Cette question du pass sanitaire, et pour le coup, là, il y a encore un peu de flou, on va dire, dans l'interprétation des textes et du décret pour ce qui concerne les activités des conservatoires, à savoir que les élèves en seraient dispensés pour toutes les activités d'enseignement que nous prodiguons. Par contre, pour les enseignants, ce n'est pas encore très très clair.
Pour les auditions et les concerts, la règle est la même que pour tous les événements culturels, avec un contrôle du pass sanitaire pour le public. Côté programme, les professeurs ont abandonné les chansons autour du coronavirus. Ils privilégient les thèmes autour de l'amitié et de la solidarité. C'est ce que nous confie Anne-Cécile Coignard.
D'un côté, on a envie de faire plein de choses et puis on se dit oui, mais si on est bloqué, on essaie d'anticiper, donc on se restreint un petit peu quand même.
La crise n'a pas eu d'impact sur le nombre d'inscriptions, mais Maxime Lesquiera l'admet, les conservatoires n'ont pas été mentionnés dans le plan de relance qui promet 2 milliards d'euros pour le secteur culturel.
On ne s'est pas senti délaissé, mais c'est vrai que dans le cadre du plan de relance du ministère de la Culture, il n'y a pas eu d'aide spécifique pour les conservatoires qui, dépendant des collectivités locales, l'État a laissé, on va dire, les collectivités locales s'en charger. Donc après, localement, on va dire, suivant les villes, il y a pu y avoir un impact sur les finances du conservatoire avec des demandes faites par les collectivités d'économie.
L'Association des conservatoires de France se rassemble dès aujourd'hui pour évoquer les conditions d'accueil de ses élèves musiciens.
Un reportage de Marie Gickel à réécouter sur notre site francemusique.fr. Et à 7h47, en ce lendemain de jour historique où nous avons appris la panthéonisation de Joséphine Baker, prévue le 30 novembre prochain, il nous semblait essentiel de l'écouter encore et encore.
À réécouter sur francemusique.fr.